Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, que Dieu nous bénisse ce matin et je vous propose que nous fassions une lecture et sur laquelle, sur quelques mots, nous allons donner un enseignement, un commentaire. C'est quelque chose de très pratique, mais je pense qu'il faut que cette conscience-là soit véritablement une réalité de chaque instant de notre vie. Je voudrais vous parler de la conscience que nous sommes appelés à avoir chaque moment de notre vie, cette conscience de la présence de Dieu. On est tellement emporté par tant d'activités, tant de choses qui, eh bien là, nous font aller de droite et de gauche, que nous oublions que le Seigneur, eh bien, nous accompagne, il est près de nous. Alors, pour illustrer cela, eh bien, nous allons ouvrir un texte fameux du livre de la Genèse, au chapitre 28, et à partir du verset 10, par exemple, nous allons lire ce passage. Et vous savez que ça peut changer toute notre vie si nous réalisons cette présence formidable, merveilleuse de Dieu, parce qu'il y a une chose qui va disparaître de nos vies, c'est la crainte et la peur. Et la foi va véritablement, eh bien, prendre le dessus. Et qu'est-ce que l'on est heureux lorsque nous sommes débarrassés de toutes ces scories, de toutes ces choses qui nous polluent, hein, qui sont toxiques, hein, telles que la peur, la crainte, hein, comment dire également, le doute, hein, le doute négatif, hein, j'entends, et cette incrédulité. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, vraiment, nous pouvons vraiment dire, comme Jacob l'a dit à un moment donné, on va le lire, hein, parce qu'il a une expression particulière, Jacob, quand il vit quelque chose de difficile, et il nous enseigne, encore aujourd'hui, il va nous enseigner. Alors donc, je vous ai dit, livre de la Genèse, chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, écoutez bien, certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est toute une réflexion dans laquelle nous allons chercher dans la Bible, eh bien, la réponse, ou tout simplement l'encouragement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que ce texte, qui était en quelque sorte un avant-propos de ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20 et verset 28, puisque ce sera tout simplement les dernières paroles de Jésus après sa mort et sa résurrection. On pourrait dire que c'est les derniers mots d'encouragement que Jésus fait au monde avant son ascension, un testament spirituel. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors on va essayer de relier finalement ces deux textes. Et je crois que ça, ce sont des choses à retenir dans notre vie. Plus que jamais, nous vivons dans une société, dans un monde, et dans sa globalité, le monde entier, où il y a tellement de choses qui bougent. Des choses qui étaient vraies hier et qui ne le sont plus aujourd'hui, bien que ce qui est vrai, ça reste toujours vrai, mais bon, les hommes peuvent considérer que tout cela, eh bien, c'est plus vrai, et on va remettre quelque chose d'autre à la place. Alors, la Terre est en convulsion, nous pourrions dire, sur le plan économique, sur le plan sismique, naturellement, dans bien des domaines, sur le plan moral, religieux, nous l'oublions pas. Mais je crois que nous sommes appelés, nous, chrétiens, à vivre dans un monde où nous devons manifester une véritable conviction en celui qui nous a donné des paroles qui sont solides, qui sont immuables, qui sont éternelles. Et c'est comme ça que nous allons finalement et bien traverser les troubles et les difficultés. Alors on n'est pas les seuls, hein, parce que je voudrais quand même vous dire que depuis des siècles et des siècles, il y en a eu des choses qui se sont passées sur la terre. Il y en a eu des craintes, il y en a eu des frayeurs, il y en a eu des guerres, il y en a eu des bouleversements, il y en a eu, enfin, autant que nous puissions dire que la terre est ainsi, et que s'il y en a un qui agit et qui est présent aussi, comme Jean le dira dans son épître, le monde entier gît dans le malin, hein. Mais c'est pas pour ça que tu es parti. Au contraire, il est là auprès de ceux qui espèrent en lui. Alors, je ne sais pas, je dis cela, j'ai eu l'occasion de partager la semaine dernière avec l'église de Célestat, donc en Alsace, ce même passage, et quand je suis revenu, je me suis dit, je voudrais quand même partager aussi avec l'église de Saint-Nazaire, eh bien, cette pensée que j'ai eu à cœur de donner à nos frères alsaciens. Et il y a quelque chose de bon et de bien, me semble-t-il, parce que vous êtes venus, vous êtes présentés ce matin à ce culte avec certainement, avec la joie de nous rencontrer, de communier ensemble, communion fraternelle, et puis de rencontrer le Seigneur. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur n'est pas seulement au centre évangélique. Il était avant aussi avec vous, avant que vous quittiez votre maison. Et puis après, il sera toujours là, vous comprenez? Quelquefois, on dit « je recherche le Seigneur ». Mais dites-moi, vous le recherchez? C'est une expression que nous avons. Mais le Seigneur est là. Il est présent. Seigneur, je me tourne vers toi et je sais que tu es là pour me rassurer, pour me donner ta paix et ta joie, mais je n'ai pas besoin de te chercher. Regardez dans le contexte des religions chrétiennes historiques. On a mis de par le monde des lieux de pèlerinage parce que c'est là que se trouve Dieu. Ou alors peut-être un de ses représentants, saint ou sainte. Et les gens vont faire des kilomètres et des kilomètres. Ils vont prendre l'avion, ils vont prendre le train, ils vont se déplacer pendant des heures et des heures, en disant « je vais rencontrer Dieu à cet endroit ». Mais écoutez, Jésus a dit « mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit, qu'il soit sanctuaire, basilique ou temple, ou dans n'importe quelle situation à votre travail, ici et puis ailleurs, le Seigneur est là. Certainement, l'Éternel était et, excusez-moi, je rectifie, c'est au présent, et en ce lieu, et moi je ne le savais pas, la conscience de la présence de Dieu. Pourtant c'était une drôle d'histoire. Assurément c'est quand même une drôle de chose l'histoire de Jacob. Je dis deux mots. Il est parti de Beersheba, vous savez pourquoi il est parti? Il n'a pas eu le temps de faire ses valises. Il avait tellement fait de facéties, tromper son père, encouragé par sa mère. Et puis, odieusement humilié son frère, que son frère voulait le tuer. Alors, il est parti en fuite. Vous savez, devant Dieu, faut jamais fuir, parce que vous voulez fuir Dieu, eh bien, vous savez, il est déjà là où vous voulez aller. Le psaume 139, Où irai-je loin de ta faille? Parce que si je vais aux cieux, tu y es. Si je vais sous la terre, tu y es encore. On n'échappe pas. Alors, faut bien comprendre les choses parce que nous sommes dans une mentalité qui est tout à fait logique, analyse humaine. Mais attendez, il faut que nous ayons une imprégnation dans notre esprit et au fond de notre cœur que Dieu est partout. Je peux me permettre de poser une question ce matin. Est-ce que le Seigneur est là au milieu de nous? Ouais. Tout le monde est conscient qu'il est là ce matin. Ben il est là ce matin, le Seigneur. Et il était là avant qu'on arrive, il sera encore là, et puis il sera chez vous, il sera dans votre voiture. Vous savez que vous transportez le Seigneur aussi, hein? Eh oui. Parce qu'il y a une belle parole qui nous est dit aussi dans la Bible. C'est la promesse du Consolateur. Que le monde ne connaît point. Il ne peut pas le connaître, c'est pas possible. C'est pour les enfants de Dieu. Qui sont nés de nouveau, qui sont repentis, qui sont convertis. Alors. Le Consolateur que je vous enverrai, il ne sera pas seulement avec vous, comprenez la nuance, mais il sera en vous. Le temple de Dieu, il est là, il est dans chacun d'entre vous. Alors, le Seigneur, eh bien, nous suit. Alors, il s'en alla de Beersheba, et je vous ai donné les circonstances. Et il a trouvé un lieu où il s'est passé, où il a passé la nuit, notre brave Jacob. Et le soleil était couché, il a pris une pierre pour s'en faire un oreiller. Je vous conseille pas, vous faites ce que vous voulez, mais toujours est-il, c'est quand même relativement dur, hein, parce qu'il n'y a pas de pierre à plume. Hein. Alors, il a pris une pierre dont il a fait son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il était certainement harassé, il était craintif, il se disait « mais je vais avoir un grand voyage à faire ». Et on peut trouver son état d'esprit lorsqu'il était dans cette circonstance. Il repensait à la faute qu'il avait fait, ou aux fautes qu'il avait fait lorsqu'il était encore dans la maison paternelle, où il ressemble un petit peu au fils prodigue, vous savez, qui s'en va. Connaissez l'histoire, et qui va aller à l'aventure, mais il lui ressemble. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses similaires. Alors, il s'est couché, et là, à un moment donné, certainement avec une conscience tourmentée, eh bien, il a fait un songe. Dieu lui a donné une révélation. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Heureusement pour Jacob, il a fait attention ce jour-là, enfin cette nuit-là. Et voilà ce qui s'est passé. Et voici une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Ah oui. Là, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup de choses parce que c'est quand même là symbolique tout cela, mais c'est intéressant. Et voici des anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle. Une révélation. Figurez-vous. Oui. Mais elle était aussi prophétique dans un certain sens. Elle était annonciatrice de ce que Jésus viendrait. Lui, il n'a pas eu besoin d'échelle, hein. Ouais, sinon qu'il a été élevé de quelques mètres sur une croix, sur une montagne qui s'appelait Morija, Golgotha. Et là, eh bien, il a étendu ses mains pour que le monde entier, à travers tout le temps, l'espace, les sociétés, les civilisations, que ce soit sur toute la surface de la terre, sache qu'il a été élevé. Et puis tout de suite après, résurrection et ensuite l'ascension. Bon, on va pas trop s'étendre parce que ça serait une autre doctrine. Et voici, à ce moment-là, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit à Jacob, pour lui rappeler ce qu'il avait peut-être oublié, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, ton père. La terre sur laquelle, et c'est une belle promesse, tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. » Nous qui avons été appelés par le Seigneur, par grâce, hein, mérite rien. Eh bien, Dieu nous a fait des promesses. Chacun d'entre nous. Ne regardez pas votre voisin ou votre voisine, vous en avez autant que lui. Et ne croyez pas que vous avez été oublié dans la distribution du Seigneur. Là, c'est aussi dans cette pénétration de la conscience que nous avons de Dieu, de sa présence, que nous allons découvrir ce pourquoi Dieu nous a appelés, et ce pourquoi nous vivons, et ce pourquoi nous sommes sauvés, et pour l'éternité. Alors, il lui rappelle ces choses. Et lui dira, mais la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. En quelque sorte, c'est le remake de ce que son grand-père Abraham avait déjà reçu. Hein. La promesse continue. La promesse va traverser les temps. C'est ce que l'on pourra appeler, comme nous l'avons dit dans un culte il y a une année, la ligne de vie. L'histoire de la révélation de Dieu, du salut de Dieu à travers l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de formidable. Oui. Alors, voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que je te promets. Tu fuis, Jacob. Tu as peur. Tu as raison d'avoir peur parce que tu as fait des choses qui sont répréhensibles. Mais néanmoins, et là nous touchons déjà un aspect de la miséricorde de Dieu pour amener son plan à se réaliser à travers Jacob. Parce que vous n'oubliez pas que Jacob va être la racine constitutive de la nation qui existe encore, la nation d'Israël. Hein. Mais c'est en train de se faire. Et il apportera cette parole, cette confirmation, « Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. » Quelquefois, on a le sentiment dans notre vie de chrétien que Dieu n'est pas avec nous. Écoutez, il y a un nom qui résonne à travers toute l'histoire. C'est le nom d'Emmanuel. C'est pas Dieu contre nous, c'est Dieu avec nous. Il faut en finir avec cette peur, avec nos craintes, avec nos appréhensions, non seulement des choses indifférentes de la vie qui font quelquefois nos angoisses et notre anxiété, mais il faut en finir avec cette peur de Dieu. Comment se fait-il que les enfants de Dieu ont peur de Dieu? Qu'ils se cachent. Mais Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et il n'est pas là pour nous chasser, il est là pour nous approcher de lui. Si tu t'attaches à lui, tu auras la paix et tu connaîtras le bonheur. Vous connaissez? Livre de Job, Dixit, chapitre 23 ou 22. Enfin, vous lisez le livre de Job, comme ça vous aurez la précision. Bon, il n'y a pas beaucoup de chapitres, il y en a 42. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis, Dieu. C'est un serment divin. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Assurément, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il y a une projection, et bien dans l'avenir, puisqu'il y a des promesses. Gardez, où tu iras, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai pas, jusqu'au moment où j'aurai exécuté à travers toi, eh bien, tout ce que j'ai décrété de faire. Alors Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, mais certainement l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. Est-ce que nous pourrions mémoriser ce passage et que quand ça va mal, quand nous avons toutes sortes de perturbations, que nous sommes ballottés de droite et gauche, qu'il y a parfois des tourbillons ou voire même des tsunamis dans notre vie, de pouvoir dire, mais Seigneur, je sais que tu es à côté de moi. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des psaumes, avec des hommes extraordinaires, et je pense particulièrement à David, ou au fils d'Azaph, ou même au fils de Corée, qui déclarent d'une manière tellement belle et admirable que l'Éternel est avec eux. Oui. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Et en plus, tu dresses devant moi une table. En face de mes ennemis, je n'ai plus peur. Et mes ennemis, ce sont pas seulement des hommes. Hein. Ça peut être finalement nos craintes, nos peurs, nos terreurs, toutes sortes de choses que nous pouvons nous mettre dans la tête, qui sont là pour nous agiter, alors que l'apôtre Paul le dira, parce qu'il l'a vécu plus d'une fois certainement, quand il dira ceci, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, vous la connaissez, elle s'appelle la folle du logis. Hein. Elle vous rentre par les oreilles, par les yeux, partout. Hein. Puis elle vous fait passer des nuits blanches. Ouais. Seigneur, mais je sais maintenant que tu es avec moi. Je veux le dire, je veux le confesser. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, on va aller un peu plus loin, si vous permettez. Et j'aimerais justement voir deux, trois cas d'une situation ou dans l'Évangile particulièrement, des hommes et des femmes ont fait l'expérience de la présence de Dieu, de la réalité de cette promesse, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », où ils ne s'apercevaient pas que Dieu était beaucoup plus proche qu'ils ne le croyaient. Et pourtant, le Seigneur était là. Je voudrais vous parler d'un homme dans Jean chapitre 5, c'est un beau personnage celui-ci parce que c'est une histoire de guérison divine. Et peut-être nous pouvons quand même souligner le fait parce que le Seigneur vient délivrer ceux qui sont malades. Oh, excusez-moi, je retire le mot délivrer seulement. Hein. Un euphémisme, il vient les guérir totalement et parfaitement. Et dans Jean chapitre 5 et au verset 5, cette histoire, elle est touchante. Elle est touchante parce que quelquefois on peut se méprendre. On cherche Dieu sans le connaître. On cherche Dieu ailleurs où il n'est pas alors qu'il est là. Écoutez. Après cela, il y eut la fête, verset premier, une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Voilà un peu l'histoire d'un homme. C'est un habitué des lieux, Bethesda, pour ceux qui ont été en Israël. Bah aujourd'hui, on voit plus grand-chose, hein. Parce qu'il y a eu tellement de chapelles, d'églises construites dessus, c'est une ruine aujourd'hui. Et il n'y a pas d'eau, hein. C'est un trou, tout simplement. Mais bon, mais du temps de Jésus, ça devait représenter l'hôpital local, si vous permettez, hein, la cité sanitaire de Jérusalem. Parce que c'est là, à défaut d'avoir autre chose, eh bien c'est là où se réunissaient tous les infortunés de la vie. Qu'ils aient ceci, qu'ils aient cela, eh bien on se réunissait là, parce qu'il paraît que quand on est dans cette situation, eh bien la misère est moins pénible quand on est plusieurs à la partager. Mais là, ils la partageaient tous entre malades, ce qui n'est pas forcément encourageant, parce que quand vous avez des malades qui sont malades et qui psychologiquement sont encore plus malades que ce qu'ils portent comme mot, alors ça vous démoralise un régiment. Hein. Mais toujours est-il que ils étaient là, il nous est dit qu'il y avait des boiteux, des paralytiques. Mais ils attendaient une chose, écoutez bien, ils attendaient quelque chose, tous. Ils attendaient ce qu'ils croyaient être un moyen de délivrance, et qui ne l'était pas, alors qu'au milieu d'eux, il y avait Jésus, et ils ne l'attendaient pas. Et c'était lui qui avait la possibilité de les guérir. Qu'est-ce qui se passe? Il attendait tous ces pauvres gens, le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps. Écoutez, dans notre vie, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. En tant que chrétien, en tant que chrétien engagé et né de nouveau, arrêtons d'attendre des anges. Attendons Jésus. Vous êtes d'accord? Ah oui. Et aujourd'hui, nous passons dans nos églises évangéliques et de Pentecôte à un autre régime des anges. Paul le dénoncera d'une manière vigoureuse. Quand il parlera dans les Colossiens, il dira « Faites attention de ne pas rendre un culte aux anges. » Et il y a d'autres textes comme ça. On voit l'apôtre Jean qui va être relevé parce que il va adorer, c'est un ange qui lui apparaît, il veut l'adorer. Allez, relève-toi. Relève-toi, arrête avec ça. Pierre, c'est pareil dans la maison de Corneille. Ils attendaient un ange qui, soi-disant, passer de temps à autre, et qui, en agitant l'eau, le premier qui se présentait, eh bien, il était guéri. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'injustice. Le pauvre paralytique qui était là depuis 38 ans, il pouvait encore passer le même temps. Il était paralysé, il ne pouvait pas se déplacer. C'était toujours le dernier des derniers, l'aveugle qui ne savait pas du quel côté aller, parce que bon, quelquefois, il avait peut-être perdu ses repères, et on peut le comprendre quand on est aveugle. Il arrivait le dernier. Il n'y avait que le plus performant, il y avait le champion qui y arrivait pour être guéri. Alors on arrête avec ces histoires de légendes et de contes que l'on met dans l'évangile, que l'on met dans une interprétation de l'évangile. Parce qu'il y a quelqu'un qui était là au milieu d'eux, qui passait au milieu de tous ces malades, et qui est Jésus, et lui ne l'attendait pas. Et c'est pourtant Jésus qui a fait la chose. Vous allez me dire, mais Jésus n'a pas guéri tout le monde. Non, il n'en a guéri qu'un. Vous savez pourquoi la différence? C'est que certainement dans son impuissance, ce pauvre homme, dans son désespoir humain, voyant que tout le monde, eh bien, allait encore bouger si l'ange passait, eh bien, il n'a pas attendu que l'ange vienne. Il a seulement eu la foi quand Jésus est passé auprès de lui pour lui répondre ce qu'il lui a répondu et manifester sa foi. Une foi timide, une foi fragile, mais une foi quand même puisqu'il était guéri. Oui, certainement. L'Éternel était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Ces hommes pouvaient dire, mais nous ne le savions pas. Ils l'ont su quand ils ont vu le paralysé guéri. 38 ans, c'est pas quand même une petite affaire, hein. 38 ans. Ne cherchons pas, mes frères et sœurs, en dehors de Jésus. Nous sommes à la merci de fausses doctrines aujourd'hui. Elles arrivent par tous les vents et tous les biais. Mais faisons attention. Restons sur la parole que nous avons reçue dès le commencement. Combien de fois c'est écrit dans le Nouveau Testament, ça? Et particulièrement, Jean insiste. Si nous sommes avides de sensations, de frissons, ou de frémissements, ou de sensibilité, mais nous allons faire fonctionner notre âme, mais nous ne capterons pas par l'esprit. Or, nous sommes appelés à vivre notre foi dans l'esprit, et pas avec notre âme. Les religions, toutes les religions, chrétiennes ou non, ont exploité ça depuis des siècles et des siècles, l'âme humaine. Ils attendaient le passage d'un ange, et ils avaient plus que le passage d'un ange, ils avaient Jésus au milieu d'eux. Le Seigneur est là, au milieu de nous. Il est loin, il est là, mon frère, ma sœur, parce qu'il te sait malade. Et il sait combien de temps tu es malade, comme cet homme, je le lis. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps. C'est pas votre première prière que vous faites pour être guéri. Peut-être que vous avez prié des mois, des années, votre problème récurrent que vous avez, mais vous l'avez porté déjà plus longtemps, mais sachant que Jésus, eh bien, que cet homme était malade depuis 38 ans, il lui a dit seulement un mot. Veux-tu être guéri? Ça, c'est presque offensant pour un homme qui est malade depuis 38 ans et de lui dire veux-tu être guéri? Parce que ça tombe sous le sens qu'il voulait être guéri. Mais il avait un problème. Il avait un problème qui avait quelque part paralysé, c'est vrai, ses jambes. Mais l'autre problème, c'est que c'est ton âme qui était paralysée, son cœur et sa capacité dans l'esprit de saisir. Et là, il avait besoin d'avoir une première guérison à l'intérieur pour qu'ensuite ça marche. Et le Seigneur, quelquefois, nous dit cela. Et nous sommes en train de tourner comme cet homme en disant « Mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Je le lis. Le malade répondit, « Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Mais mes frères et sœurs, même si nous étions seuls dans une grande solitude, mais le Seigneur est là. Que Dieu nous donne des accompagnateurs, des gens qui sont remplis de commisération et de compassion pour nous, mais on bénit le Seigneur pour ça. Mais même si nous étions tout seuls, le Seigneur est là. Et c'est de lui que nous avons besoin. Certainement, l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. Il est là, au milieu de nous. Deuxième texte, c'est dans l'évangile de Luc. Je passais rapidement. Hein. L'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 16. Il est dit ceci. Oh, je vais lire depuis le verset 13. Et voici ce même jour, Luc 24, 13, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et nos pauvres amis, disciples, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et voilà quelque chose. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelle histoire ! Marcher pendant des minutes, pendant des heures, un certain temps, dirons-nous, sans reconnaître celui qui est à vos côtés. C'est curieux ça. Comme quoi il peut y avoir au niveau de notre vie intérieure comme un voile, comme, là, quelque chose d'opaque. Il parle, il discute. Jésus va les accompagner à un certain moment, il voit qu'ils sont dans une démoralisation épouvantable. Eh oui, celui en qui nous avons cru, celui en qui, avec lequel nous avons marché pendant tant de mois, il a fait tant de miracles, il a fait des choses extraordinaires, il nous a donné des paroles sublimes qui parlent au cœur des hommes. Et puis voilà, il y a des hommes qui l'ont mis sur une croix, ils l'ont tué, puis maintenant nous ne savons plus où il est. Nous espérerions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Fausse croyance, parce qu'il y a un petit peu de nationaliste dans cette affaire et de patriotisme. Oui. Nous espérions que ce serait lui. Et puis voilà, et bien il est mort. Et je peux vous dire que il marchait tête basse, nos deux disciples qui montaient de Jérusalem à Emmaüs, et je peux vous dire que c'était une dévastation morale, psychologique. Et voilà que Jésus s'approche, Il fait route avec eux et ils discutent de tout ça. C'est comme ça qu'on a appris ce dont ils parlaient. Oui. Mais il y a ce passage, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, moi, si je marche avec quelqu'un que je connais et que, ouais, j'espère que s'il parle avec moi, il me reconnaît. Oui. Avec mon épouse, par exemple. Bon, on se connaît depuis quelque temps. Mais, toujours est-il que, c'est vrai. Mais quelquefois, il y a des aveuglements. Il y a des voiles. Il y a comme, des choses qui passent sur les yeux de notre cœur, mais qui ne sont pas d'ordre physique. Il y a des fois, on est en face de vérité, de choses qui sont flagrantes, qui sont tellement claires et évidentes, comme la lumière, on n'arrive pas en but. On dit, je n'arrive pas à comprendre. C'est terrible ça, hein? Bon, je sais qu'il y en a un qui s'occupe de nous. Et vous savez, quand on est dans un état de dépression et un état d'anxiété, comme pouvaient l'être les disciples d'Emmaüs, ça peut se comprendre, hein, que leurs yeux étaient empêchés de voir, parce que quand on est vraiment dans une tristesse profonde, on ne comprend plus rien de rien. Hein. Mais le Seigneur sait que quand on passe par là, le Seigneur sait que nous avons besoin d'être aidés dans ces domaines. Ouais. Vous savez, il faut être gentil avec les gens qui font de la dépression, hein. Moi, je vous le dis, je vous le répète pour ceux qui... Moi, j'ai piqué des têtes magistrales dans la dépression. Ouais, plusieurs fois. Ça peut vous rassurer, parce qu'il y a certains commentateurs de la Bible qui disent quand on est chrétien, on est nouveau, on passe pas par la dépression. Eh bien, les gens qui disent ça, ils sont jamais passés par la dépression. Jamais ils ne connaissent pas un sujet dont ils veulent traiter. Doctrinalement, ils ne le connaissent pas. Parce que ceux qui sont passés par là, je peux vous dire, on marche entre ciel et terre sur du coton, hein. Et là, on peut avoir les yeux vraiment. Et pourtant, le Seigneur, combien de fois m'a dit, et moi j'encourage ceux qui passent par là, combien de fois m'a dit, ne crains point, je suis là. N'aie pas peur, que ton cœur ne s'alarme point. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Fait du bien, hein? Ouais, ça fait du bien. Alors mes frères qui passaient par cet état-là, comme les disciples d'Emmaüs, le Seigneur va vous aider à remonter la pente et vous allez voir. Il va vous aider. Et il va vous bénir, il va vous guérir, il va vous délivrer. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais pour un temps, parce qu'après avoir cheminé, Jésus va leur apporter comme réconfort la parole de Dieu, commençant par Moïse et les prophètes. Il leur a parlé de tout ce que disait l'Écriture sur la venue du Messie. Et quand ils se sont trouvés à table, au terme de la journée, dans ce lieu, vous savez comment ils l'ont reconnu? Quand Jésus a pris le pain. Et vous savez, il faut revenir au sacrifice de Jésus. Il faut revenir au pain et au vin. Alors à ce moment-là, il nous est dit que c'est une coupe de bénédiction, une coupe de délivrance. Coupe de délivrance. Et nos yeux s'ouvrent, mes frères et sœurs. Nous avons parfois toutes sortes de perturbations de notre vision. On en a parlé, hein, l'astigmatisme, la myopie, etc. Mais le Seigneur est capable de nous guérir et de nous le montrer. Tu m'as cherché si loin. Tu m'as cherché si longtemps alors que j'étais près de toi. Le Seigneur va nous dire, mais j'étais déjà en toi. Pourquoi tu as peur? On va passer à un autre texte. À Jean, chapitre 20, verset 14. On va regarder ça. Jean, chapitre 20, verset 14. C'est à la fin de notre évangile de Jean. C'est Marie qui est au tombeau. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Voir sans voir. Oui, c'est curieux, hein? D'être si près, d'être devant, d'être entouré et de ne pas comprendre. Mais quelquefois il y a ce genre de situation que Dieu permet dans notre vie, parce que quand la lumière va apparaître, ça va être une expérience formidable pour nous. Ouais. Comme un jaillissement, comme un éclat, comme un éclair. Et là, nous allons dire, mais je sais que le Seigneur est là. Vous vous rendez compte? Ben oui, notre brave Marie. Elle avait vu Marie, elle avait vu Jésus dans le tombeau. Elle se posait certainement des questions. Et Jésus, alors qu'elle se posait des questions dans ses pleurs, elle avait perdu son ami Jésus. Et là, elle est en train de parler, elle marmonnait en elle-même certainement et bien toute sa peine. Et elle a vu Jésus debout. Elle l'avait vu sur la croix. Elle l'avait vu peut-être mise au tombeau, ensevelie, couchée. Mais là, il est debout et il est vivant et elle ne savait pas que c'était Jésus. Ouais. Pour nous, Jésus n'est pas mort. Oui. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. C'est une difficulté pour les hommes de croire à la résurrection, n'est-ce pas? Paul nous dit que si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est vrai que c'est quand même difficile avec notre esprit cartésien, nos analyses, nos déductions, etc. Hein. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il est vivant, et figurez-vous que nous sommes vivants avec lui, par la nouvelle naissance. Et elle n'avait pas reconnu non plus, tout simplement, elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui a dit, mes femmes, pourquoi pleures-tu? Et que cherches-tu? Pourquoi nous pleurons? Vous avez certainement des raisons de pleurer. C'est vrai, il faut respecter les gens qui pleurent. Quelquefois, on dit aux gens, oh, arrête, ne pleure pas. Oui, bon, s'ils étaient à notre place, ils verraient un petit peu qu'ils changeraient peut-être d'avis. Hein. Parce que là, pleurer, ça fait du bien, ça soulage. Bon, faut pas se laisser enfermer dans les pleurs. Pendant des mois, pendant des... Le Seigneur est un Dieu de consolation, et toujours par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Mais ça fait partie de l'humanité. Que cherches-tu? On cherche, mais il est question de trouver. Hein. Et quand on est sincère, droit de cœur, mais le Seigneur va nous révéler qui il est et qu'il est plus près de nous. Je termine avec un dernier exemple. C'est celui de Jean, chapitre 21, toujours hein, dans l'évangile de Jean, et verset 21, et au verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? C'est, vous savez, c'est après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples au bord de la mer de Galilée, vous connaissez un peu l'événement. Hein. 21, verset 2, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas ce que c'était, que c'était Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils avaient marché 3 ans avec lui. Ils avaient vu des miracles. Comment dire? Un miracle, c'est toujours extraordinaire. Ils avaient vu le surnaturel de Dieu, le surnaturel du ciel venir frapper de bénédiction la terre. Ils avaient entendu des messages que nul homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme, et ils n'ont pas reconnu. Ça, c'est curieux, hein? C'est vraiment étrange, une chose pareille. Mais quand Pierre a dit « Je vais pêcher », il était découragé, notre Pierre. Il se dit maintenant « Oui, c'est vrai, il a été crucifié. C'est vrai qu'il est ressuscité. » Parce qu'il l'avait vu aussi ressuscité. Mais il se disait maintenant, c'est fini, hein, c'est terminé. Alors il retournait à son entrain, à son ancienne entreprise. Je vais retourner à la pêche. Tout le monde a été unanime pour dire, bon, retourne avec toi. C'était tous des pêcheurs, hein. Pêcheurs et pêcheurs. Mais toujours est-il que ils n'avaient pas le moral encore. Et pourtant, au petit matin, quand ils sont revenus, et qu'ils sont revenus bredouilles, rien pris, hein. Comme dans l'évangile de Luc au chapitre 5, quand il a appelé Pierre, puis les fils de Zébédée, vous savez, où il y a eu la pêche miraculeuse. Ça va être la deuxième pêche miraculeuse. Alors, à ce moment-là, ils sont revenus, ils n'ont rien pris, et Jésus se trouvait sur le rivage. Voilà, ils approchaient du rivage, ils étaient encore sur la barque. Vous avez connu tellement de péripéties, l'infructuosité de la pêche, mais aussi la tempête, hein, sur ce virage, sur ce lac. Et Jésus était sur le rivage, et il les attendait. Le Seigneur veut nous conduire à ce rivage-là, aux uns et aux autres. C'est un rivage de paix. C'est un rivage de bonheur. cet arrivage de grâce. Parce que là où est Jésus, il ne peut pas y avoir autre chose que ce que je viens de vous citer. Toucher le rivage. Et si quelqu'un a besoin de l'entendre encore ce matin comme un encouragement, qu'il le reçoit de la part du Seigneur. Jésus était sur le rivage et il ne le savait pas. Le rivage n'est pas seulement dans cette église, hein, il peut l'être. Mais on l'a rencontré quelquefois dans notre vie personnelle, dans bien d'autres circonstances. Et quelquefois on a eu du mal à le reconnaître, mais il était là. Vous savez, me semble-t-il, faut véritablement que notre foi se développe de plus en plus. Les yeux de la foi, c'est Paul qui dit ça aux Philippiens, me semble-t-il. Il dira, mais je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ces yeux-là peuvent nous troubler. Ils peuvent faire défaut. Ils peuvent mentir quelquefois sur ce que nous voyons. Mais ceux de notre cœur, avec une véritable conviction, avec une amplification de notre vie spirituelle, de la vie de l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes, ne seront jamais déçus ni confus. La foi spirituelle. Ça, c'est important. Alors, certainement l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné rendez-vous ce matin. Il est toujours là. Il vous donne rendez-vous à vous-même. En n'importe quelle circonstance, dans les temps d'épreuve, dans les temps d'affliction, lorsque vous pleurez. Le Seigneur est avec nous dans nos joies et dans les belles choses qu'il nous a données aussi. N'oublions pas de le remercier. Hein. Soyons pas ingrats. Mais je parle particulièrement dans ces situations particulièrement difficiles, le paralytique, un homme qui était malade depuis 38 ans. Les disciples d'Emmaüs qui faisaient une dépression, mais terrible, ou également Marie au tombeau, parce que là c'était la mort. Et derrière la mort, avec Jésus, il y a la vie. Hein. Faut passer par là. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, il y a les disciples de la barque. Il y avait d'autres histoires que l'on pourrait citer dans la Bible, mais je m'arrêtais là. Je ne le savais pas. C'est là-dessus que j'aurais terminé. Je ne le savais pas. Bien que ce soit la réalité. Bien que ce soit lui. Bien qu'il était près de moi. Et il était en moi. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je vais vous mettre quelques mots devant vous. Par inconscience, la conscience, l'inconscience, ça nous joue des tours. Et le Seigneur veut que nous ayons de la connaissance spirituelle, éclairée. Et s'il y a quelque chose qui peut nous faire sortir et qui fera sortir les hommes de l'inconscient, comme nous, nous sommes sortis quand nous avons rencontré le Seigneur, quand nous nous sommes convertis, eh bien, c'est d'apprendre de lui, comme Marie était au pied du Seigneur, hein, et là, elle écoutait sa parole. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous voulez grandir spirituellement, vous voulez vous rapprocher du Seigneur, eh bien, lisez la parole de Dieu. Oui, ne la lisez pas d'une manière littérale et légaliste, ça ne servira à rien. Mais lisez-la en vous tenant devant Dieu, en disant, Seigneur, je prends ta parole aujourd'hui, enseigne-moi ta parole, remplis mon cœur de ce que tu veux, réponds à mes besoins. Et là, à ce moment-là, vous verrez que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je ne le savais pas par insouciance. C'est le monde d'aujourd'hui. Les gens croient en un Dieu qui existe, mais enfin, ils mélangent avec Bouddha, Mahomet, enfin, bon, peu importe. Mais les chrétiens, insouciance, est-ce que nous pouvons nous payer le luxe, dans les temps dans lesquels nous sommes, où Jésus revient bientôt, de vivre notre foi dans l'insouciance, en disant, on verra bien. Moi, il y a une déchirure dans mon cœur, et je sais qu'elle est aussi dans le vôtre, c'est de voir des frères et des sœurs qui se sont engagés pour le Seigneur avec de belles promesses, une belle confession de foi, et qui, après un certain temps, ont complètement disparu en disant « Non, ça ne m'intéresse plus. » Mais le culte, la Sainte Cène, c'est important. Le service de Dieu dans l'évangélisation, c'est important. Les réunions de prière, c'est encore plus important, parce que c'est le combat spirituel où nous remportons les victoires. Non, ça ne m'intéresse plus. Insouciance. Ben, l'insouciance, Jésus nous en donne quelques paraboles. Hein. Il mangeait, il buvait, et puis un jour, eh bien, voilà. Sodome et Gomorre, et puis Noé, etc. Bon, voilà, c'est à réfléchir tout ça. Mon indifférence, ça revient au premier, au deuxième que je viens de vous citer. L'indifférence, nous vivons dans un monde d'indifférence parce qu'il y a une règle, et qu'elle ne soit pas chez les enfants de Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bon, ben ça c'est sûr. Mais nous avons une autre promesse, c'est la promesse non pas de la mort, mais la promesse de la vie. Et ça se prépare, le royaume de cieux. Le caractère chrétien se prépare dès maintenant. Je ne le savais pas par mon indolence et ma somnolence. Je ne parle pas pour les frères qui viennent ou les sœurs qui viennent le dimanche après-midi et qui, après un bon repas, tant que c'est pas moi, hein, que je m'endors sur le pupitre, enfin, vous feriez quelque chose quand même, hein. Mais la somnolence. Nous vivons dans un monde qui est plein de soporifiques, qui anesthésie. Ouais. Et les gens disent, oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué quand je lis la Bible? Qu'est-ce que je suis fatigué le dimanche matin? Ouais. Il y a un petit conseil. Faut vous coucher un peu plus tôt, avant 2h du matin, si vous venez venir au culte, hein. Ben non, vous oubliez tout ça. Mon négligence. Plus tard, Seigneur, on verra ça plus tard. Je ne le savais pas, par mon imprévoyance, j'ai été prévenu, et finalement, j'en ai pas tenu compte. Je ne le savais pas par ma désobéissance, et encore une fois de plus, par mes imprudences. Alors que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Jésus nous dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Certainement, assurément, une conviction dans notre cœur, l'Éternel était et dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Maintenant, frères et sœurs, je voudrais vous dire que vous le savez. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. On va demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Oui Jésus, tu es venu sauver une humanité qui se réclame de tout savoir, de tout connaître, de pouvoir tout faire. Et Seigneur, tu nous as bien dit une chose. Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, Seigneur, ça c'est une illusion. Mais nous voulons croire qu'en effet, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as mis de côté, tu nous as établis pour que nous puissions porter du fruit et que nous annoncions au monde entier les vertus de celui qui a été notre sauveur, qui est notre sauveur. Alors révèle-toi et manifeste-toi. Moi, ma prière, elle va particulièrement vers mes frères et mes sœurs, quels que soient leurs maux et leurs douleurs, qu'elles soient d'ordre physique, que ce soit d'ordre psychologique, familial, moral, que ce soit spirituel aussi, les combats et les luttes spirituelles. Seigneur, je veux te demander que tu leur donnes cette conviction très forte que tu n'es pas contre eux, tu n'es pas seulement avec eux, mais tu es en eux, puisqu'ils t'ont ouvert leur cœur. Tu les bénis, tu passes dans les rangs maintenant. Je te demande, et toute l'Église, Seigneur, nous nous joignons les uns et les autres pour te demander de visiter nos vies, de visiter mon frère et ma sœur, peut-être qui pleure, celui qui, en effet, croit que, eh bien là, tout est fini pour lui. Mais Seigneur, quand nous disons tout est fini, toi tu dis, mais tout commence. Seigneur, tu passes dans les rangs, tu passes dans nos vies, tu visites nos cœurs, tu te révèles et tu te manifestes, Seigneur, dans nos esprits, pour ranimer nos esprits, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Oui. Seigneur, révèle-toi et manifeste-toi, parce que je crois que ce matin tu fais du bien, et nous sommes venus pour recevoir du bien, nous l'avons entendu dans les prières préliminaires. Seigneur, je te bénis et je te remercie, tu es merveilleux Jésus, et que chacun puisse repartir avec la joie, avec le bonheur dans son cœur, de savoir qu'il marche avec Jésus à ses côtés, et Jésus la meilleure place dans son cœur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.